Et au menu de notre club des têtes au carré cet après-midi, les allergies qui explosent, la mauvaise qualité de l'air dans les maisons de retraite, une machine pour communiquer avec l'au-delà, et puis la semaine des maths avec la journée du nombre pi. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant avec vos messages et vos questions sur l'ensemble de ces sujets, franceinter.fr, et puis également les messages courts avec le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, des conditions propices à l'existence d'une vie extraterrestre sur Encelade, c'est une lune de Saturne.
L'analyse des données de la sonde Cassini laisse penser qu'il y aurait sous la glace de l'eau, de la chaleur et peut-être, oui, pourquoi pas, la vie. On en parle avec un des auteurs et vos questions sur Twitter.
C'est Violaine Ballet qui réalise cette nouvelle Tête au Carré qui a été préparée par Anne-Cécile Perrin.
La Tête au Carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et aujourd'hui dans notre club, le professeur Jocelyne Juste, le docteur Isabella Anessi-Maisano, Roger Mansu. Attendez, oh là là, pas tout de suite, qui est enseignant, Philippe Baudouin, chargé de réalisation à France Culture.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Jocelyne Juste, le 17 mars prochain, c'est la journée française de l'allergie. Et dans ce domaine, l'OMS n'est pas très optimiste, hein, c'est une véritable explosion.
Oui, oui. Pas toutes les allergies, aussi bien l'asthme qui a doublé depuis les années 80 à 2000, que les allergies alimentaires, notamment les plus formes, les anaphylaxies qui peuvent tuer 7 fois plus d'anaphylaxies en 10 ans. Donc effectivement, c'est un problème de santé publique.
Une personne sur deux sera allergique en 2050, hein, ce sont les pronostics. Isabella Anessi-Maisano, la qualité de l'air dans les maisons de retraite laisse à désirer, hein, partout en Europe d'ailleurs. C'est ce qui ressort de votre étude publiée cette semaine.
Oui, la qualité de l'air laisse à désirer et les résidents des maisons de retraite sont des plus susceptibles que les autres. Mmh. Et donc, ils subissent davantage les effets de cette mauvaise qualité de l'air.
Voilà, avec des problèmes respiratoires, on en parlera avec vous. Philippe Baudouin, c'est un drôle de personnage, Thomas Edison, hein, et vous vous êtes intéressé à une de ses inventions vraiment très particulière.
Oui, je me suis intéressé à la face obscure de l'ingénieur américain. Cet inventeur, figure mythique du progrès américain, avec cette volonté dans les années 20 de mettre sur pied une machine pour entendre l'au-delà.
Y est-il parvenu? C'est ce que vous nous direz dans quelques minutes. Et puis Roger Mansuy, demain commence la semaine des maths. Ce sera aussi la journée mondiale du nombre pi. Donc ça va bouger dans toutes les villes de France. Hein.
Ça va bouger dans toute la France pendant une semaine. Le jour pi au départ, le forum des mathématiques vivantes une semaine plus tard. Beaucoup voilà. D'initiatives.
Et tout ça pour nous séduire évidemment et nous faire
évidemment
aimer les maths. Voilà pour un premier tour d'horizon des sujets dont nous allons parler. Vous nous rejoignez avec vos messages. Et à la une de la science aujourd'hui, des sources hydrothermales sous les glaces d'Encelade, une des multiples lunes de Saturne, parce qu'on a fait le compte, hein, Philippe Pénarejo, si on a
60
lunes autour de Saturne. Deux publications parues mercredi suggèrent donc la présence de ces sources. Elles sont toutes les deux analysées avec des données captées par la sonde Cassini lors de ses passages autour d'Encelade depuis 2009. Olivier Mouzis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes professeur d'astrophysique à Aix-Marseille, université, et vous êtes l'auteur de l'une de ces deux études, et puis Philippe Pénarejos, bien sûr, vous êtes le rédacteur en chef de Ciel et Espace. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Olivier Moussis, dans l'atmosphère d'Encelade, donc cette petite lune glacée en orbite autour de Saturne?
Donc écoutez, depuis 2009, la molécule du méthane a été détectée par la mission Cassini. Et depuis 2009, à chaque fois que Cassini est passé à côté d'Encelade, cette molécule a été redétectée dans les geysers d'Encelade. Donc nous, ce que nous avons fait avec mes collègues, notamment avec mon thésard Alexis Bouquet, nous avons modélisé l'océan d'Encelade qui permettrait de générer ces geysers. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est que le méthane qui est observé aujourd'hui dans les geysers d'Encelade ne devrait pas être existant, il ne devrait pas être là. Parce qu'en fait, les conditions thermodynamiques qui règnent dans l'océan profond d'Encelade font que ce méthane devrait être piégé dans des glaces qu'on appelle clatrates ou hydrates de méthane, dans lesquelles le méthane est piégé. Alors le mot clatrate vient du mot grec clatron, qui veut dire cage ou prison. Et donc les molécules de méthane sont piégées dans ces cristaux, ce qui fait c'est que le méthane ne devrait pas pouvoir remonter à la surface à travers les geysers. Donc la conclusion qu'on a, c'est que si ce geyser si ce méthane est présent dans les geysers, c'est qu'il y a une source contemporaine de méthane. Donc deux possibilités pour cette source, ces possibilités ne sont pas du tout exclusives mutuellement. Ce sont soit des réactions hydrothermales, comme sur Terre, soit du méthane produit par des organismes vivants comme les bactéries.
Donc on trouve vraiment des océans profonds sur Encelade.
Alors ça, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est connu déjà depuis quelques années grâce au survol multiple de la mission Cassini. Mm-hmm. Ce qu'on voit maintenant, c'est que cet océan profond n'a pas fini de dévoiler ses secrets, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des conditions suffisamment, disons, intéressantes pour voir si il y a déjà des réactions hydrothermales a priori, et voire plus si les choses se produisent comme on le souhaiterait. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez, dans les fonds océaniques, les sources hydrothermales, dans les fonds océaniques, on voit de la vie qui se développe autour. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que ce méthane provient d'une source, qu'elle soit abiogénique ou biogénique.
On s'arrête là. Peut-être de la vie qui galope autour, hein, comme vous dites. Philippe, on aimerait bien, évidemment. Que nous dit l'autre publication donc parue dans Nature, hein, cette fois-ci?
Alors, il y a une autre publication qui, je crois, vient en complément de celle-là, puisque dans ces mêmes panaches de ces geysers qui sortent de la carapace de glace qui emprisonne Encelade, eh bien, ils ont trouvé du sodium, c'est-à-dire que c'est un sous-produit, en quelque sorte, pareil, de cette chimie de la Terre qui se ferait dans la croûte rocheuse d'Encelade. Ce qui tente à donner un petit plus à l'hypothèse de chimie géologique, on va dire, plutôt qu'à la vie. Mais comme disait Olivier Mosis tout à l'heure, ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que ces deux hypothèses-là pour l'origine du méthane ne s'excluent pas mutuellement.
Axel.
Et c'est surtout que la vie et le méthane soient de source vitale est aussi confirmé par le fait que les sources hydrothermales, elles, sont propices sur Terre à la vie. C'est ça qui est important, Olivier Mosis.
Absolument, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les fonds marins, on voit que c'est très profond, hein, on parle de profondeur à plusieurs milliers de mètres, voire 10 kilomètres, on voit des sources hydrothermales dans les abysses, et on voit que des formes de vie se sont développées autour, et pourtant il n'y a pas de lumière. Et ben, par analogie, on se retrouve dans un environnement qui est relativement similaire à celui d'une lune, comme celle autour de Saturne qui est Encelade, ou comme Europe autour de Jupiter.
Comment on explique justement que Saturne ait autant de lunes autour d'elle?
Ça, c'est très compliqué. Vous savez que 95% de la masse des lunes autour de Saturne est regroupée sous la forme de Titan. Titan, c'est la plus grosse lune de Saturne, et elle seule représente 95% de la masse. Tous les autres corps, si vous voulez, qu'il y a autour, il y a plusieurs théories qui essaient de les expliquer. Alors, ça peut être des produits de collision, ça peut être la fragmentation à cause des effets de marée. Mm-hmm. Pour l'instant, tout est ouvert. On est encore au début. On comprend à peine la formation planétaire.
Ouais, c'est tout petit. Encelade, c'est tout petit. Hein. C'est vraiment un petit corps. Hein.
La seule chose que je peux vous dire au sujet d'Encelade, c'est que grâce à des mesures de Cassini, des mesures isotopiques, les matériaux qui ont donné lieu à la formation de cette lune sont d'origine type cométaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont formés dans les mêmes environs de la nébuleuse primitive où se sont formés les comètes.
Ouais, c'est 500 km de diamètre.
Oui, c'est 500 km de diamètre. A priori, c'est un corps, à mon avis, si vous le prenez et vous le mettez au milieu de l'espace, loin de toute masse, ce qui est le cas de Saturne, c'est un corps qui deviendrait totalement inerte. Là, l'énergie dont Olivier Mosis parle et qui se retrouve à l'intérieur, c'est dû aux forces gravitationnelles de Saturne et des autres satellites qui font des forces de marée, ce qu'on appelle les forces marées, qui tordent cette lune en permanence. Alors comme il y a un frottement énorme, ça fait de la chaleur, de l'énergie à l'intérieur.
Axel.
Mais là, ces travaux sur Encelade montrent qu'on suspecte la vie sur un corps qui n'est pas du tout accueillant, c'est ce que vous venez de dire, Philippe. Est-ce que quand on cherche des exoplanètes jumelles de la Terre, on cherche vraiment la vie au bon endroit?
Non, c'est ça. Vous savez, la première chose qu'on regarde quand on a commencé à chercher de la vie autour d'autres étoiles, on a cherché à trouver des analogues à la Terre. C'était ce qui est le plus logique. Donc aujourd'hui, les grands télescopes se rapprochent de plus en plus au niveau de la masse de la Terre, au niveau de la détection des exoplanètes. Ça commence à germer les découvertes. La seule chose, c'est que la décision de la vie telle qu'on la conçoit sur Terre n'est peut-être pas univoque. Et les lunes autour de Jupiter ou de Saturne en sont l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que des vies se soient développées autour d'exolunes, autour de planètes géantes, autour d'autres étoiles.
Comment est-ce qu'on va faire justement, Philippe, pour aller plus loin et savoir si de la vie, une forme de vie existe autour de ces sources hydrothermales, par exemple?
C'est une question que j'ai à poser à Olivier Mosis.
Ah ben si on se pose tous des questions,
mais
oui, alors.
Non, mais parce qu'on a beaucoup plus de questions que de réponses, là, pour l'instant. Mais est-ce que Cassini, d'une part, a les moyens de savoir plus de choses sur ce méthane, c'est-à-dire peut-être de dire quelle est son origine, ou est-ce qu'il va falloir envoyer une autre sonde? Est-ce que vous allez nous faire une mission pour bientôt?
Olivier Mosis.
Bon, merci pour la patate chaude, Philippe. Parce qu'en fait, la définition de la vie, c'est quelque chose qui est tout à fait subjectif. Je pense que les gens pourraient débattre en des heures. Bon, il y a certains éléments qui sont intéressants. Par exemple, vous savez que le méthane qui est produit sur Terre est riche en isotopes légers, alors que le méthane qui est produit par la géologie est riche en isotopes lourds du carbone. Donc, en gros, un méthane qui est biogénique a sa propre signature, un méthane qui est biogénique a la sienne aussi. Donc, ça veut dire que si on peut mesurer le rapport isotopique dans le méthane, ça pourrait être une hypothèse, ça pourrait être un champ d'investigation possible. Et il faut mesurer plein d'autres molécules qui sont beaucoup plus complexes. Donc je pense que si on veut trouver de la vie sur Encelade, il faudrait envoyer un instrument tel qu'est celui de Cassini, mais beaucoup plus sensible.
Bon, donc, avant d'aller chercher de la vie sur Encelade, on va vous laisser filer prendre votre train, Olivier Mouzis, parce que vous êtes sur le quai d'une gare. Vous êtes où d'ailleurs en ce moment ?
Eh ben, je suis à Bordeaux.
Vous
là,
êtes à Bordeaux.
Sur Besançon.
Voilà. Et votre train, c'est dans 1 minute 30, donc il ne faut pas le louper.
Dans ces eaux-là.
Merci. Allez, merci beaucoup pour vos explications.
Merci beaucoup, messieurs.
Passez une très bonne journée. Europe, c'est une autre lune autour de Jupiter. Cette fois-ci. Et c'est aussi une bonne candidate pour des recherches de vie.
C'est une excellente candidate. Vous avez Europe et vous avez aussi autour de Jupiter, il y a encore une publication qui est parue aujourd'hui qui fait état d'un océan détecté alors de manière beaucoup plus certaine qu'on ne le pensait auparavant, sous Ganymède, sous la glace de
Ganymède.
Donc il y a de
l'eau liquide.
Qui est un satellite Jupiter aussi. Ouais. Donc il y a de l'eau liquide. Il y en a sur Ganymède, sur Europe, probablement sur Callisto. Ouais. On voit qu'il y en a sur Titan, probablement autour de Saturne, sur Encelade. Ouais. Et tout ça, c'est très nouveau parce que c'est des endroits où il y a encore 10 ans, on n'imaginait pas chercher quelque chose en exobiologie. Et là, on va pouvoir peut-être avoir de nouvelles missions spatiales vers des nouvelles destinations et une nouvelle manière de penser la recherche de la vie sur d'autres planètes.
Vous imaginez le jour où on va se retrouver autour de ce micro, Philippe, pour dire ça y est, on a découvert de la vie, c'est sûr.
Je ne l'imagine pas, je l'attends.
Voilà, et on sera ensemble pour l'annoncer aux auditeurs, c'est sûr. Axel, bon week-end.
Bon week-end, Mathieu.
Et puis le podcast, toujours.
10 minutes de la Une de la Science, tous les jours à podcaster indépendamment de l'émission, si vous voulez, un petit shoot.
Il suffit de s'abonner et ça fait pas de mal, au contraire. Ça c'est bon pour les neurones. Merci beaucoup, à très bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le réchauffement rapide de l'Arctique va-t-il dérégler le climat des zones tempérées ? L'augmentation des températures, justement, est en moyenne deux fois plus rapide en Arctique que partout ailleurs sur le globe. Des scientifiques allemands suggèrent que cette amplification dite arctique pourrait fortement modifier les modèles de circulation aux États-Unis, en Europe et en Asie. Un phénomène qui serait, selon eux, à l'origine des tempêtes hivernales puissantes qui touchent les États-Unis depuis 10 ans, mais aussi de la vague de chaleur extrême qu'a connue la Russie en 2010. Une grève de neurones, une première mondiale franco-belge, des chercheurs de l'INSERM et de l'Université libre de Bruxelles ont réussi à insérer des neurones de culture dans le cortex visuel de plusieurs souris adultes. Ils ont ensuite suivi le rétablissement anatomique et fonctionnel de la zone. Après 12 mois, la greffe avait pris chez 61% des animaux, une prouesse qui laisse entrevoir de nombreux espoirs pour soigner un jour le cerveau humain. Et puis pour finir, des bières vieilles de presque 2 siècles qui révèlent leur composition. 5 bouteilles en verre découvertes sur une épave au fond de la mer Baltique ont été analysées par un laboratoire finlandais. Une odeur de fromage de chèvre, de vinaigre, de choux pourris, voire de pneus brûlés. Mais une composition très proche des bières actuelles. Une amertume encore intacte, du houblon aussi, un taux de potassium très proche des bières. Voilà ce qui ressort des analyses. Allez, notre club des têtes au carré dans un instant.
En demi-dieu, faible, invincible sur la falaise, je veux pas qu'on touche. Je volerai l'écrin de ton pur sang, cavalier seul et mis en touche. J'ai pris du poids sur la balance du room service. Je me parle de toi dans l'ascenseur au bois de lys, je veux pas qu'on touche. Je volerai les reins des enfants rois qui à tes seins pendront leur bouche. Mon cœur te croyait morte. Toi qui lui a donné la vie comme un loup sur la mer morte, jure sirène de Colombie. Mon cœur te croyait morte. Toi qui lui a donné la vie comme un loup sur la mer morte, jure sirène. Que reste-t-il de nos promesses sur la falaise? Je veux pas qu'on me touche. Je volerai l'écran au pur sang cavalier. es seul et mis en touche. Je rends ma foi aux vierges douces de Saint-Supplice. J'entends ta voix dans les eaux troubles et à la Nice. Je veux pas qu'on me touche. Je volerai les reins des enfants rois qui à tes seins pendront leur bouche. Puisque tu pars, oublie-nous. Si je reviens trop tard, pour le coup. Puisque tu pars, si je reviens trop tard, mon cœur te croyait morte, toi qui lui as donné la vie, comme un loup sous la mer morte, jure le sirène de Colombie. Mon cœur te croyait morte, toi qui lui as donné la vie, comme un loup sous la mer morte, jure le sirène.
Telle Thérèse avec Julien Doré.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et dans notre club cet après-midi, l'explosion des cas d'allergie, la pollution de l'air dans les maisons de retraite, une machine pour communiquer avec l'au-delà et la semaine des maths. Vos questions arrivent en ce moment en direct. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Philippe Baudouin, Roger Mansuit, Jocelyne Juste et Isabella Anesi Maizano, nos invités. Professeur Jocelyne Juste, on va commencer avec vous. Vous êtes pédiatre, allergologue, pneumologue à l'hôpital Trousseau à Paris. Et donc le 17 mars prochain, c'est la 9e journée française de l'allergie organisée par l'association Asthme et Allergies. Oui. Et on le disait tout à l'heure, hein, on amorce la situation dans ce domaine de la santé quand même assez préoccupant. Hein.
Tout à fait, oui. Il y a une explosion des allergies, de tout type d'allergies, que ce soit respiratoire, alimentaire, cutané, probablement avec des causes communes qu'on évoquera, hein, c'est-à-dire notre mode de vie occidental qui prédispose à cette augmentation des allergies.
Ouais, il y a cette accélération qu'on peut noter depuis quand finalement dans les études épidémiologiques.
Pour l'asthme, c'est dans les années 80 qu'on a vu l'explosion, hein, multipliée par deux entre 80 et 2000. Ouais. Et pour les allergies alimentaires, c'est maintenant.
Ouais, donc ça c'est vraiment notable dans tous les pays occidentaux a priori.
Oui, alors tous les pays les plus industrialisés. En premier lieu, Australie, États-Unis, Angleterre. Mm-hmm. Nous, on est prévalence moyenne et puis il y a les prévalences faibles qui sont les pays en voie de développement, on va dire.
L'OMS donc pense qu'une personne sur deux sera allergique en 2050. C'est quand même beaucoup. Oui. En France, hein, c'est une personne sur quatre actuellement.
C'est ça.
Et l'OMS qui classe quand même l'allergie au quatrième rang mondial des maladies après le cancer, les pathologies cardiovasculaires et le sida.
Ouais.
Et donc apparemment, les choses ne vont pas aller en s'améliorant dans les prochaines années.
Ouais. Quand on parle d'allergie, en plus, on globalise un peu. Alors souvent, les allergies, on pense au rhume des foins. Quoi.
Ouais.
C'est beaucoup plus vaste que ça. Hein. C'est l'asthme, ce sont les allergies alimentaires, c'est l'anaphylaxie médicamenteuse ou au venin de guêpe, c'est la dermatite atopique.
Donc c'est très large. Hein,
c'est large, c'est large.
Alors comment vous expliquez-vous ce doublement des cas?
Alors les hypothèses, la première hypothèse, c'est l'hypothèse hygiéniste, c'est-à-dire de dire que finalement le système immunitaire ne va pas être stimulé par des infections obligatoires ou par un microbisme, ça va plus loin maintenant, c'est un microbisme qui nous environne, parce qu'on est environné de microbes, hein, et ces microbes, contrairement à ce qu'on pense, sont souvent des saprophytes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas pathogènes, qui ne vont pas vous rendre malade et qui vont éduquer votre système immunitaire dans le bon sens. Donc tous nos muqueuses, digestifs, respiratoires, cutanés, sont en rapport avec ces microbes qui font du bien, on va dire. Et puis ce microbisme change avec notre environnement, c'est-à-dire que plus on est loin de zones végétales, plus on est loin de la ferme, plus on est loin...
Alors c'est ça, il y a des études étonnantes là-dessus, oui. Sur la protection du mode de vie rural.
C'est ça. Plus ces microbes vont changer, et finalement, l'éducation immunitaire qui devait se faire dans le bon sens va aller dans le mauvais sens, celui de l'allergie.
Sauf que, on a un courriel de Julie qui nous dit ceci, maman allergique au contact et respiratoire, 3 enfants allergiques alimentaires, on vit en Gironde à 4 mètres des vignes de Saint-Émilion, alors pourtant on est en milieu rural, mais qui sont traités presque en permanence, comment s'en protéger et faut-il y voir un lien ?
Alors oui, non, les pesticides ne donnent pas tellement des allergies, donnent plutôt chez la petite fille des pubertés précoces, chez l'adulte, c'est un peu... Enfin, Isabella pourra en parler parce qu'elle connaît mieux que moi. Comment s'en protéger, sinon mettre des masques quand on traite les vignes, mais mais c'est pas tout à fait les pesticides qui donnent des allergies.
Bruno nous dit, quelle différence entre intolérance et allergie?
Alors, faut faire bien attention à cette histoire d'intolérance, parce que on voit trop ce terme d'intolérance au gluten ou au lait. Ça n'a rien à voir. L'allergie, c'est une réaction immédiate et sévère qui va vous donner une crise d'asthme, une rhinite, une poussée d'urticaire, des vomissements. L'intolérance, ce sont des manifestations chroniques, comme on peut voir par exemple l'intolérance au lait du petit nourrisson. Souvent, c'est de meilleurs pronostics, ça guérit, alors que l'allergie, surtout quand elle est sévère et multiple, elle persiste.
Ouais. Un auditeur nous dit ceci, Jean, dans le vaccin obligatoire DTP que l'on est censé injecter chez des nourrissons de 3 mois dont le système immunitaire n'est pas encore fait, on injecte aussi des conservateurs, des formaldéhydes, des antibiotiques. Or, le formaldéhyde est un allergisant.
Oui, non.
Que
non.
Lui répondez-vous?
Vacciner les enfants, je réponds. Vacciner les enfants, ça fait disparaître la mortalité infantile par rougeole, ça fait disparaître... des cas de tuberculose méningée. La vaccination, c'est ce qui a permis de faire disparaître les maladies mortelles des petits-enfants. Donc surtout ne pas dire on ne vaccine plus pour éviter les allergies.
D'ailleurs, il y a des retours de maladies comme la rougeole, par exemple, en Allemagne. Il y a des cas en ce moment très clairs qui sont liés directement
à l'absence de vaccination.
Comment on établit un diagnostic justement par rapport à l'allergie et comment on reconnaît les premiers signes? C'est important d'aller vite, en tout cas.
Oui, alors ça va dépendre des âges de la vie. Chez le petit nourrisson, c'est souvent des allergies alimentaires, donc qui vont se manifester par des vomissements, de la diarrhée, des maux de ventre, voire de l'urticaire. Puis après, il y a l'allergie cutanée, c'est la dermatite atopique, l'eczéma, ça gratte, sont des boutons qui grattent, qui sont toujours récurrents dans les mêmes zones. Et puis après, il y a les allergies respiratoires, ça commence par la rhinite, le nez bouché, les éternuements, et puis après, c'est l'asthme, donc la toux, les bronchites.
Et le stress, ça joue aussi sur les allergies?
Et le stress joue sur les
allergies. Il y a des nouvelles publications là-dessus.
Oui, il y a des publications là-dessus. Notamment, on a montré que in utero, quand la maman était stressée ou avait de la dépression, on a fait un article avec Isabella là-dessus. Il y avait un risque d'allergie et d'asthme chez le nouveau-né à naître, beaucoup plus important. Donc effectivement, le stress a une relation. Mais ne pas dire que l'asthme et l'allergie, c'est uniquement psychologique et qu'il suffit de soigner le mental. C'est important à prendre en compte, mais ce n'est pas unique.
Donc se faire diagnostiquer le plus tôt possible, parce que certaines personnes mettent très longtemps. Il y a une sorte d'errance du diagnostic, plusieurs années, alors qu'il faut essayer d'agir.
Oui, des enfants qui sont enrhumés en permanence, des enfants qui toussent, et qui ne sont... Alors on pense que c'est des infections obligatoires de l'enfance, et en fait, ne sont pas diagnostiquées comme asthmatiques ou allergiques.
Roger Mansuy.
Vous me rassurez bien, il n'y a pas d'allergie aux maths.
Non.
Alors ça, pour
Je ne sais pas.
Ça se discute. Je pense qu'une étude serait nécessaire sur la question. Parce que beaucoup se revendiquent très allergiques à votre matière. Je suis désolé de vous le dire, Roger Mansuy. Voilà, donc journée de 17 mars pour l'allergie. Et puis les renseignements qui sont disponibles sur le site internet asthme-allergie au pluriel.
Juste dire un mot. Que les allergologues, on a besoin de plus en plus d'allergologues, il y en a de moins en moins, que nous luttons pour que l'allergologie devienne une spécialité, que certains ne disent pas qu'on est des charlatans ou je ne sais quoi, comme on a pu entendre.
Surtout avec le nombre de cas qui arrivent, on va avoir vraiment besoin de votre profession.
Merci.
Docteur Isabella Anessi-Maizano, vous êtes épidémiologiste, directrice de recherche à INSERM, et vous êtes l'auteur principal de l'étude GERI qui vient d'être publiée sur la qualité de l'air dans les maisons de retraite. C'est la première étude sur le sujet. sujet ?
C'est la première étude au monde sur le sujet qui a été réalisée en utilisant un protocole standardisé, à savoir les mêmes méthodes dans 7 pays, en ayant tiré au sort des maisons de retraite et puis les participants, aussi les résidents.
Donc il y avait une cinquantaine de maisons de retraite qui ont été étudiées donc, en Europe et plusieurs résidents, 600 je crois, qui ont participé 600. Avec vous, donc âgés de plus de 65 ans. Qu'est-ce que vous avez fait alors auprès d'eux ? Qu'est-ce que vous leur avez demandé exactement ?
Alors ils ont été visités par un médecin qui a fait aussi des tests cliniques qui visaient beaucoup la santé respiratoire essentiellement. Et de l'autre côté, on a mesuré la qualité de l'air dans ces maisons parce que l'hypothèse de départ était que ces gens restent beaucoup à l'intérieur de ces maisons où ils sont exposés peut-être davantage que les autres.
Donc il y a des polluants qui vous ont intéressé en particulier ?
Ben, on a pris les polluants les plus importants qui sont les particules, les fameuses particules, donc les fines 2 microns et demi et les ultra-fines, celles qui vont très loin dans l'arbre respiratoire. Et puis on a pris des irritants, le dioxyde d'azote, le formaldéhyde et l'ozone.
Et alors, le résultat ?
Et alors,
il n'est pas bon, on peut le dire tout de suite.
Tout d'abord, une hétérogénéité, bien sûr, de la qualité de l'air dans les maisons, avec des moyennes légèrement plus élevées que celles préconisées par l'OMS, par exemple, pour la Commission européenne. Et à côté de ça, des problèmes respiratoires parmi les résidents qui étaient dans les maisons de retraite où il y avait un excès de ces polluants.
Donc, corrélation entre les problèmes respiratoires des personnes âgées et ces polluants
Absolument.
Présents dans les maisons de retraite.
Et d'autant plus que les personnes étaient âgées, on a séparé en deux groupes, moins que 80 ans et plus que 80 ans, et on a vu que c'était parmi les plus âgés que l'effet était le plus important.
Sûr. Comment vous expliquez une aussi mauvaise qualité de l'air dans les maisons de retraite ? Qu'est-ce qui se passe ?
Bon, disons,
on ouvre les fenêtres pourtant, non ?
Je pense que, d'ailleurs, un autre résultat, c'est que quand on considérait si les maisons étaient ventilées ou pas, l'effet, bien sûr, s'il n'y avait pas de ventilation, était encore plus important. Donc, la ventilation est très importante à faire. Je ne dirais pas que vraiment il y avait beaucoup de pollution, sauf quelques cas. Mais je pense que c'est la susceptibilité plutôt des individus qui a joué un rôle dans cette relation. Ouais. Et c'est normal, les personnes âgées souffrent du vieillissement, qui est normal ou pathologique. Donc les réactions à l'environnement sont ralenties, imparfaites, et donc c'est... Voilà, c'est le système immunitaire qui réagit moins bien, surtout parce que souvent, il y a des commandes, les gens souffrent déjà d'un certain nombre de pathologies. Et quand on est malade, c'est difficile d'organiser ses défenses.
Alors, c'est quoi les consignes, finalement ?
Ah ben, les consignes, c'est ventiler.
Comment on peut remédier à ce problème ? Ben oui, c'est compliqué, parce que souvent, les personnes âgées aussi ont peur d'attraper froid. Donc
c'est, toujours... c'est pour ça, en discutant un peu avec les personnels, souvent, les fenêtres n'étaient pas ouvertes pour protéger, soi-disant, les résidents. Ouais. Donc... il faut, par contre, qu'il y ait des vraies ventilations, peut-être, sans ouvrir les fenêtres, et que, aussi, nos polluants viennent de l'utilisation de produits ou des matériaux de construction. Donc, il faut aller dans le sens d'éviter les produits qui sont à l'origine d'émissions importantes.
Et puis, il faut sortir un peu plus dehors aussi, non ?
Oui, mais bon, il y en avait les pauvres qui étaient allaités, donc c'est pas évident. Mais c'est surtout... Et je contrôlais la qualité de l'air. Et puis aussi, il y en avait qui n'avaient jamais fait une visite médicale de type respiratoire. Et je pense qu'un petit contrôle, ça ferait pas de mal, parce qu'on peut intervenir.
Au vu des résultats. Oui. Jean-Paul nous dit, une de mes tantes vient de décéder d'un arrêt cardiaque dans sa chambre, en maison de retraite, 83 ans. Il faut dire que l'air était irrespirable dans ladite chambre. Ma tante y fumait 2 paquets de cigarettes par jour.
Voilà, ça,
on peut fumer des clopes dans les maisons de retraite, dans sa
nous,
chambre,
dans notre notre étude qui a ciblé 7 pays, on a bien trouvé que là où il n'y avait pas d'interdiction de fumer dans les lieux publics ou pas, et il y a encore des pays en Europe où c'est le cas, on avait même le personnel qui fumait. Donc et ça, c'est le polluant principal, le tabagisme passif, et aussi directement le tabagisme actif. C'est un facteur très connu de ces pathologies. respiratoire.
Voilà pour les résultats de cette étude Géry. Donc, 7 pays européens concernés et les résultats, effectivement, pas très bons sur la qualité de l'air, mais pas seulement dans les maisons de retraite, parce que vous pourriez continuer dans beaucoup de lieux publics comme ça.
Ben nous, on a fait déjà les écoles. Là, on va sortir bientôt une étude européenne sur les écoles. Et il faut faire beaucoup d'études parce que c'est un domaine méconnu.
Ouais. Allez, une machine pour communiquer avec l'au-delà. Ben, ça nous intéresse justement. Ce sera dans un instant la suite du Club des Têtes au Carré.
Little parcels of the past are spinning down towards the Gaia. And the sinuous truth I'm voiced is stretching up forever higher. Leaves of places, leaves of friends are blowing in the wind and falling. But my ship calls through the rain to the place that I am going. Trepidation, it got to be mistaken. It was an endless time ago. You got to let it go. Of life have traveled in a wave to find me. 100 million light years passed, but still they seem to find a way to blind me. Storms of old I never told. Last year they were all the rages. All the sciences of motion cannot calculate my changes.
Et la voix d'Assaf Avidan à l'instant dans notre club des Têtes au Carré. La suite avec vous, Philippe Baudouin. Vous êtes confrère chargé de réalisation à France Culture et vous êtes l'auteur d'un essai Machine nécrophonique qui ouvre en fait un livre, Thomas Edison, Le Royaume de l'au-delà. C'est sorti aux éditions Jérôme Million. Et vous vous êtes penché sur les expérimentations qu'Edison a menées dans les dernières années de sa vie autour des phénomènes occultes et notamment sur le nécrophone. Alors c'est un drôle d'appareil scientifique qui aurait pu permettre aux morts d'entrer en relation avec nous. Alors, c'est formidable quand même d'avoir eu cette idée-là. Hein.
Ben oui, on est en 1920, Thomas Edison est âgé de 73 ans précisément. On est effectivement chez le vieil Edison qui a encore cette soif de gloire et qui tente, en tirant profit de son invention notamment du phonographe en 1878, de mettre sur pied, et peut-être de vouloir repousser quelque part les frontières de la science, de mettre sur pied ce que j'ai appelé un nécrophone, puisque c'est un objet inachevé, ce n'est qu'une intention, une note d'intention finalement, le texte que nous proposons au lecteur. Et cette volonté comme ça de non pas peut-être conjurer la mort, mais du moins peut-être prouver physiquement, matériellement, par le biais d'une machine enregistreuse, ce que j'ai appelé le nécrophone, l'existence d'un au-delà.
Oui, mais quand on a inventé le phonographe, pourquoi pas inventer effectivement le nécrophone ? Enfin, je veux dire, on est à l'époque, le phonographe, c'était quelque chose de tout à fait stupéfiant aussi. Hein.
Oui, en 1878, lorsque le phonographe est présenté par exemple à Paris, à l'Académie des sciences, c'est une véritable révolution, tant et si bien que certains académiciens pensent qu'il s'agit d'un habile tour de ventriloquie. Ouais. Hein, c'est le terme qui est rapporté à l'époque, donc c'est une véritable confusion, un trouble, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquels Jacques Derrida dirait que c'est un événement historique pour l'humanité. C'est la première fois que l'Occident entend sa propre voix.
Et on va écouter celle d'Edison, justement. Alors ça, c'est 1927. C'est un bel enregistrement, 4 ans avant sa mort. Et le voici donc en anglais.
The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, it squeaked with white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
Voilà un des premiers enregistrements de l'histoire, hein, grâce à Edison.
La petite comptine Marie a un petit agneau, ouais. Qui était justement une des premières paroles inscrites sur le cylindre du phonographe lors des premières expérimentations autour de son phonographe, son premier modèle de phonographe, dans les années 1877.
Ouais. C'était un type génial quand même, hein. Inventeur fou, très prolifique. Il a déposé combien ? Plus de 1000 brevets, c'est
1093 brevets précisément sur le seul territoire américain.
Ouais. Pour des inventions très hétéroclites. Hein.
Oui, parce qu'il y a aussi bien la pile alcaline, la lampe à incandescence, même si l'idée n'était pas de lui, hein, parce que très souvent, il détourne et il l'utilise à ses propres, pour son propre profit, hein, c'est le cas oui. De le dire, des inventions, d'autres personnages historiques, d'autres inventeurs, etc. La poupée parlante, les guirlandes de Noël, etc., etc.
La chaise électrique.
Et la chaise électrique dont il est à l'origine de l'objet et dont il va faire subir, en fait, effectivement, toute la violence. William Kemmler, l'un des premiers à faire des frais justement de cette chaise électrique en 1890.
Ouais. Et alors, c'était aussi un personnage assez controversé.
Oui, parce qu'il s'intéresse aux sciences occultes. C'est l'objet de cet ouvrage, ou plutôt, faudrait-il dire, de cet ultime chapitre de ses mémoires et observations, paru en 1948, ouais. Donc publié de manière posthume, traduit en français en 1949, que j'ai retrouvé, qui avait été publié de manière très confidentielle c'est à ça. 60 exemplaires par l'éditeur Flammarion.
C'était pas du tout assumé, ça c'était la face sombre justement du scientifique.
Ben, ça a fait certainement partie de cette polémique, et de cette peut-être volonté de l'éditeur historique de vouloir écarter cette partie de la vie d'Edison, justement de ce qui restera pour l'avenir. Mm-hmm. Mais ce qui est très étrange, effectivement, c'est qu'il s'intéresse à ce qu'on appelle les phénomènes psychiques, les phénomènes de l'esprit, les phénomènes occultes, qu'il s'agisse de communication avec les morts, de télépathie, de psychokinésie, c'est-à-dire la prétendue action de l'esprit sur la matière. Oui. Et il expérimente tout ça dans son propre laboratoire.
Oui, ça, c'est mal vu par les scientifiques, quand même. Hein. Je suis juste, Isabella Nessimilfano. Ça, c'est le genre de sujet, il ne faut pas trop s'en vanter, quand même.
Non, mais s'il y a des preuves, on n'a rien contre.
Ah oui, mais c'est ça, voilà. C'est ça, la rationalité avant tout.
Oui, absolument.
Il faut peut-être rappeler qu'au tournant du XXe siècle, de grands esprits comme Henri Bergson, le philosophe Henri Bergson, Pierre Curie, qui s'est énormément intéressé à ces phénomènes-là, Édouard Branly, un des pionniers de la télégraphie sans fil, grand physicien, justement, ont voulu se confronter une bonne fois pour toutes. Il y a une séance mémorable à la Sorbonne dans les années 1905, où on voit tous ces prix Nobel se tenir la main autour d'Eusapia Palladino, celle qu'on appelait la diva des savants, qui était capable comme ça de matérialisation d'ectoplasme, de télékinésie, de psychokinésie, et on tente de comprendre, d'objectiver scientifiquement ces phénomènes.
Voici un petit texte autour justement du nécrophone.
Je voudrais fournir aux chercheurs spirites un appareil qui leur permettrait de travailler d'une manière strictement scientifique. Cet appareil est basé sur le principe de la valve. Tout comme un microphone amplifie plusieurs fois le volume et la portée de la voix humaine. Ma valve amplifie énormément toute force ou énergie, aussi minime qu'elle soit, par laquelle un esprit pourrait se manifester. Je travaille déjà depuis un certain temps à la mise au point des détails. D'ailleurs, un de mes assistants dans cette tâche vient de mourir. Comme il connaissait exactement le but que je poursuis, je suppose qu'il sera le premier à se servir de mon appareil. à condition bien entendu qu'il soit en mesure de le faire.
Et ça, c'est la voix de Piraté, justement.
Oui, le comédien avec qui j'ai travaillé pour un atelier de création en octobre dernier, diffusé sur France Culture.
Autour du nécrophone, Jean-Paul sur franceinter.fr nous dit « Est-ce que Edison a utilisé son nécrophone depuis sa mort pour nous envoyer de ses nouvelles ?» Tiens, tout ça pour dire que tout scientifique ou ingénieur a sa part d'irrationalité.
Eh bien, selon certains médiums, dans les années 30, années 40 et années 50, figurez-vous que oui.
Il nous a contactés.
Alors... Oui, en tout cas, il a été sollicité par ses médiums, par ses spirites, pour retrouver les fameux plans du nécrophone. D'ailleurs, dans les années 30 et puis années 60, certaines revues scientifiques, pour d'autres un peu moins sérieuses, ont voulu reproduire, sous forme de croquis très approximatif, cette fameuse valve dont il était question à l'instant.
Bah, qu'est-ce qu'il nous raconte alors Edison ?
Alors il raconte que ces croquis se trouvent à un certain endroit à New York et justement ce journaliste à l'époque, dans les années 60, dans la revue Fate, va reproduire tout cela. Ouais. Et on voit cette valve, quelque chose qui ressemble à un pavillon de phonographe, ça tombe bien, relié à toutes sortes de câbles électriques et puis une énorme antenne qui pourrait ressembler à une antenne radio pour capter comme ça ces voix venues de l'éther. Ce que Edison voyait d'une certaine manière assez métaphysique finalement. C'est ça qui est très surprenant, c'est que ça emprunte d'une énorme crédulité, naïveté et en même temps d'une conception véritablement métaphysique de l'enregistrement des voix en fait. Parce qu'il dit que la personnalité survit, si elle survit en fait à la mort, elle se trouvera sous la forme d'unité de vie. C'est le terme qu'il emploie, une sorte de petite molécule comme ça de vie, assez incroyable, bon, et qui conserverait la personnalité et aussi une capacité d'agir et puis de réagir, de se mouvoir comme ça. Ce serait une sorte de résidu de mémoire qui serait dans l'éther autour de nous.
Roger Mansuy, ça vous passionne cette histoire ? Est-ce que le mathématicien se demande comment on a pu fabriquer ce truc-là ou au moins
tenter de le faire ?
Ouais.
Non, pas vraiment. Peut-être la question, savoir quels sont les concepts qui sont derrière, là ça m'intéresserait plus. Savoir ouais.
Alors c'est quoi ? C'était vraiment un projet écrit ? Il est allé jusqu'où dans cette idée alors complètement folle ?
Alors il y a
des dessins ?
Il y a ce texte-là, il y a certains croquis dont l'authenticité n'est pas véritablement confirmée. Hein. Mm-hmm. Ceux qu'on a reproduits, et qu'on reproduit d'ailleurs dans l'ouvrage, datant des années 1933-1962, dans certaines revues dont je parlais déjà tout à l'heure. Il y a cette note d'intention qui est quand même assez incroyable. Assez naïve aussi et fort critiquable d'ailleurs, ouais. Mais il y a surtout voilà, cette volonté d'imaginer et de prendre appui sur certaines conceptions scientifiques. Il parle de la circonvolution de Broca, donc cette zone du cerveau qui contiendrait effectivement le langage, je rappelle qu'en 1920 quand même, donc il s'intéresse beaucoup aussi aux avancées de la biologie, aux avancées de la physique, tout en n'étant pas scientifique. Il faut rappeler quand même qu'Edison était inventeur de profession, c'est le terme qu'il emploie dans son autobiographie. Il dit: je ne suis ni savant, ni scientifique, je suis inventeur de profession.
Ouais. Alors, ça s'est fait quand même dans un contexte particulier, c'est après la Première Guerre mondiale, donc évidemment beaucoup de morts. Est-ce qu'il a tenté justement d'inventer une machine pour soulager les familles et leur permettre d'imaginer et
communiquer avec leurs proches, hein, c'est-à-dire que la mort n'est pas qu'une question physique, n'est pas qu'une question métaphysique, c'est également un marché. Pour Thomas Edison. Et il y a énormément de cynisme et de cupidité, je pense, dans cette intention de vouloir mettre sur pied un nécrophone.
Isabella Anesimaizano.
Oui, c'était un commercial aussi, parce que dans le texte en anglais, on a entendu que décrivait que c'était un petit appareil. Donc, il vendait ses produits aussi bien et pour... Oui. La période.
Et puis on connaît ses relations amicales avec Henry Ford, le grand industriel américain. Donc on peut imaginer cette volonté industrielle de tirer profit commercialement, économiquement, financièrement de cette invention possible, probable.
Ouais. Et de fin de vie aussi pour lui.
Aussi,
est-ce qu'il n'a pas tenté d'inventer vraiment le truc le plus dingue de toute sa carrière ?
Ben oui, parce que justement, son collaborateur, William Walter Dinwiddie, avec ce Dinwiddie, ils avaient forgé un pacte que j'ai appelé pacte électrique, et dont la veuve d'Edison, je rappelle ça justement dans le texte qui ouvre le royaume de l'au-delà, la veuve de Thomas Edison, en 1934, déclare au journaliste que son mari, décédé, avait conclu une promesse comme ça avec ce collaborateur autour de cette machine sur laquelle ils travaillaient tous les deux, et le premier qui viendra à mourir, tenterait de faire signe à l'autre par-delà la mort, justement, et grâce à l'électricité, grâce à la communication nécrophonique.
C'est formidable, le royaume de l'au-delà, donc précédé de ces machines nécrophoniques que vous signez, Philippe Baudouin, autour de Thomas Edison, et cet ouvrage est paru aux éditions Jérôme Millon.
I keep singing them sad, sad
Otis Redding pour bien commencer le week-end.
Le club carré sur France Inter.
Roger Mansuy, vous êtes le dernier membre invité de notre club des têtes au carré. Cet après-midi, vous êtes enseignant à Louis-le-Grand, président du comité de culture mathématique de l'Institut Henri Poincaré. Ça en jette, ça, hein ?
Très prestigieux.
Quel est ce poste exactement ?
Alors, il s'agit de rassembler les initiatives et les bonnes idées qu'on peut avoir pour faire de la communication scientifique au sein de l'Institut Henri Poincaré.
Et ça tombe bien parce que demain va débuter en France la 4e édition de cette semaine des mathématiques, mais ce sera également la journée mondiale du nombre pi. C'est vrai qu'on a le sentiment quand même là depuis quelques années que ça bouge beaucoup plus dans le domaine des mathématiques, dans cette volonté en tout cas de faire connaître cette discipline au grand public.
Alors, ça bouge beaucoup plus et en même temps, on est plus vu. Oui. Et l'idée qu'on puisse rassembler sur une semaine beaucoup de monde, des publics différents, des chercheurs, des enseignants, des médiateurs et surtout les étudiants, les élèves, fait qu'on accède aux médias et qu'enfin on est un peu plus vu.
Vous arrivez à vous faire comprendre ou pas ? Parce que c'est toujours la difficulté avec le langage mathématique, hein. c'est d'en parler vraiment.
Alors tout dépend de ce qu'on appelle comprendre. Si on doit nous expliquer aujourd'hui des mathématiques de recherche, peut-être qu'on n'arrivera pas à comprendre intégralement ceci. Mais il y a beaucoup de choses à comprendre dans les mathématiques qui ne sont pas uniquement la pointe de la recherche. Il y a des mathématiques dans nos vie. Et toute cette semaine des mathématiques a pour but de nous montrer que chacun d'entre nous peut aimer des mathématiques.
Stéphane nous dit, je viens de faire une poussée de boutons rouges écarlates lorsque vous avez prononcé le mot mathématique, rien que de l'écrire ça empire. Quelle saloperie cette maladie, nous dit-il. Jocelyne Juste, il faut l'aider tout de suite cet auditeur.
Hein. C'est une urticaire.
C'est une urticaire, voilà.
Le stress.
Voilà, le traitement alors approprié.
Mais c'est pas allergique. Hein,
non. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller quand même pour aller mieux ?
Ben, des antihistaminiques.
Et apprendre, et apprendre un peu de mathématiques.
Non, apprendre des mathématiques, c'est plus intéressant.
Non, je veux dire, ne pas avoir peur, parce que c'est vrai. Hein.
Ouais. Proposons-lui de venir cette semaine. Il y a des expos photos, il y a des projections de films, il y a des rallyes un peu partout sur toute la France. Il va pouvoir voir des mathématiques et peut-être qu'il aura cette petite sollicitation qui fera qu'il sera après résistant.
Le thème choisi pour cette année, les mathématiques nous transportent.
Oui, il y a beaucoup de mathématiques dans les transports, que ce soit les transports de personnes, les transports, la logistique, le matériel, mais aussi les transports électroniques et toute autre forme de transport. Moi-même, j'ai des formes de transport avec les mathématiques.
Ah, c'est vrai, mais ça se manifeste comment ? Alors racontez-nous, ça nous intéresse.
Une joie, un enthousiasme, une énergie qu'on retrouve dans les mathématiques.
Ça vous porte alors, effectivement. Évidemment. Et c'est ça que vous allez essayer de faire partager. Pourquoi la journée mondiale du nombre pi ? Alors, c'est rigolo.
Alors, c'est une initiative américaine au départ, le Pi Day américain, et ça vient de la façon dont les Américains notent la date.
Eh oui.
Les Américains commencent par noter le mois avant le jour et demain nous serons le 14 mars.
Ah mais là c'est l'extase.
Le 14 mars sera donc le 3-14.
2015.
2015.
Donc là on a plus de décimales.
Nous avons la journée pi du siècle et on a même mieux. C'est-à-dire si demain matin à 9h26 et 53 secondes vous ne savez pas quoi faire, pensez au nombre pi, vous aurez un nombre optimal de décimales.
Ça va vous porter chance alors. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde entier autour du nombre pi ?
Alors aux États-Unis il y a beaucoup de manifestations et il y a même des concours de tarte. Paille.
Ah, bien sûr.
Voilà. En France, le concept a été transporté depuis peu et on va avoir deux grosses manifestations qu'on peut signaler parmi d'autres. Une à Marseille, au MUCEM, au Musée de la Culture d'Europe et de Méditerranée, et où il va y avoir toute une journée avec en particulier un concours de tarte. mais aussi beaucoup d'exposés, dont certains au titre très racoleur.
Oui, les pailles, les pailles en anglais, hein, c'est ça l'idée.
Drôle et gourmand.
Voilà. Et deux journées d'animation au Palais de la Découverte à Paris, avec tous les médiateurs sur le pont, pour faire des activités pour les plus petits et les plus grands.
Mais qu'est-ce qu'on rigole chez les mathématiciens, dites-donc, c'est incroyable ça. Un petit conte mathématique autour du nombre pi, c'est pour vous.
L'histoire de pi est aussi longue que les chiffres qui s'alignent derrière la virgule. Nous sommes à Samarcande, en Perse, en Asie centrale en 1420. Al-Kashi est professeur de mathématiques et d'astronomie dans la grande école fondée par le souverain Ulugh Beg. Bien que tout à fait sain d'esprit, Al-Kashi a tendance à faire des mathématiques partout et tout le temps. Il s'intéresse en particulier aux propriétés du cercle. Mettons qu'un épicier lui rende la monnaie en pièces bien rondes, aussitôt il divise leur circonférence par leur diamètre et il trouve 3,141. Ou 3,142, ça dépend. Supposons qu'il contemple la pleine lune par un beau soir d'été. Il divise la surface par le rayon, au carré. Et là, encore, 3,142. Tandis que le mois suivant, 3,141. Et pour n'importe quel cercle, c'est toujours ce nombre-là. 3,14 à 0,001 près. Sauf qu'Al-Kashi n'est pas homme à se contenter de si peu de précision. 3,141 ou 3,142, il faudrait savoir.
Alors, Roger Mansuy. Il a fallu préciser encore.
Il a fallu préciser encore, mais la bonne définition est celle qu'on a donnée, c'est le rapport du périmètre et du diamètre. C'est peut-être la seule vraie bonne définition plutôt qu'une approximation décimale.
Alors on va la retenir pour cette journée mondiale du nombre pi, ce sera demain. Et puis pour la semaine des mathématiques, alors là il y a énormément de choses à faire. Déjà on peut donner le site internet, c'est education.gouv.fr, l'initiative du ministère de l'Éducation. Et il y aura des choses vraiment dans toutes les villes de France.
Dans toutes les villes de France et dans des lieux où on n'a pas l'habitude de faire des maths. Par exemple, on voit à Paris le 104, dans le 19e, qui est un lieu d'échange culturel habituellement, recevra des collégiens et des lycéens qui présenteront leurs activités. C'est le samedi 21. La BNF, l'après-midi, sera mobilisée à Paris. On peut citer aussi le Vieux-Port. Il y aura une très jolie expo photo sur le Vieux-Port à Marseille.
Ouais. Et des photos, justement, avec la Maison des Mathématiques. Ça, c'est aux éditions du Cherche Midi. C'est Cédric Villani, en fait, qui avait souhaité qu'un photographe puisse venir quasiment en résidence.
Voilà. On est toujours confronté à la même idée. Tout à l'heure, on parlait de l'allergie aux maths. Il y a aussi l'image des matheux. Les matheux sont tantôt des savants fous, tantôt des super-héros, dès qu'ils retrouvent une équation, on a le phénomène à la Hulk qui se présente. Et là, on a voulu montrer les mathématiciens dans leur vie quotidienne et comment le faire sans introduire un biais du fait que nous, on connaisse les mathématiciens. Et l'idée de Cédric Villani a été de faire venir un photographe, Vincent Moncorgé, en résidence à l'Institut Henri Poincaré, et de photographier pendant des mois les photographes qui étaient les mathématiciens qui étaient de passage.
Oui. On voit beaucoup de gens qui se torturent quand même dans le livre, qui ont la main posée sur le front face au tableau noir avec des équations absolument partout.
La première remarque est plutôt qu'on voit des tableaux noirs un peu partout, y compris dans les couloirs. On voit des brouillons et après on voit des femmes et des hommes qui cherchent.
Ça réfléchit, ça cogite.
Oui, il y a de la tension, mais il y a aussi de la joie. On voit des moments où les gens sourient, on voit les moments où les gens échangent et on voit toute la communauté en fait qui... gentiment en train de vivre.
Cédric Villani, Arthur Avila, dernier médaillé Fields, ça a aussi beaucoup porté les mathématiques dans notre pays ?
Ah oui, ça, évidemment, il y a un retentissement de ces grandes récompenses internationales dans notre pays, mais pas que dans notre pays. Et on espère bien pouvoir...
Ça existe toujours les compétitions autour des mathématiques, parce que ça, c'est quelque chose qui était très important en Russie, par exemple. Grégory Perelman, ils ont tous fait leurs premières armes dans ces compétitions qui sont des Olympiades en fait, de mathématiques.
Alors, ça existe toujours les compétitions internationales de mathématiques. La France participe aux Olympiades internationales. C'est des compétitions pour lycéens, collégiens et lycéens, qui ont lieu une fois par an. Et cette année, ce sera en Thaïlande.
On est bons, les Français, là, dans ce domaine ou pas ?
On est raisonnablement bons, mais on pourrait être meilleurs.
Oui.
Et il faudrait pour ça avoir une meilleure détection, qu'il y ait des gens qui en entendent parler un peu plus tôt. On prépare une centaine de jeunes et on en envoie 6 pour des médailles. L'an dernier, on a eu 5 médailles.
C'est pas si mal.
C'est pas si mal, mais on était classé 45e pays sur une centaine de participants, ce qui est un peu moins bien.
Faut pas le dire, ça. C'est pas très vendeur. C'est le kangourou, c'est ça le nom de la compétition ?
Alors, le kangourou, c'est une compétition qui a lieu pendant la semaine des maths, mais il y a d'autres compétitions, celle dont on parlait, qui est beaucoup plus prestigieuse, l'Olympiade internationale de maths. Mais il y a des centaines de compétitions, en particulier, par exemple, on peut citer la Coupe Animat qui a lieu début juin et qui sert à recruter des gens pour des activités l'été, des stages l'été, pour ceux qui veulent faire une colonie de vacances mathématiques.
Oh là, ils vont être contents, les enfants qui nous écoutent, certainement. Ça va donner des idées aux parents. Merci beaucoup, en tout cas, la semaine des maths avec education.gouv.fr pour avoir tout le programme et rencontrer les mathématiciens et tant qu'à faire s'amuser autour de cette discipline. Et puis la Maison des Mathématiques, c'est aux éditions du Cherche Midi. Mesdames et messieurs, bon week-end à tous. Merci beaucoup d'être passés dans notre club cet après-midi.